Bienvenue dans le podcast Santé pour tous, le podcast dédié aux enjeux mondiaux liés à l'accès aux soins de santé de qualité. Santé pour tous ouvre la réflexion sur le droit à la santé universelle et cherche à donner les clés pour comprendre les obstacles à la santé qui persistent dans le monde. Avec l'aide de nos ambassadeurs et ambassadrices, nous allons plonger au cœur des histoires et des initiatives mises en place pour faire de ce droit à la santé une réalité pour toutes et tous. Écoutons ces hommes et ces femmes passionnés partager leur vision pour un avenir où la santé universelle devient réalité.
Je suis Sabine Van de Wever. J'ai 57 ans, je suis mariée et j'ai deux fils qui sont déjà grands. Je travaille depuis 35 ans à l'hôpital Saint-Vincent à Denze, dont 33 ans en tant que sage-femme en chef de la maternité. Depuis un peu plus d'un an maintenant, je suis également responsable du service pédiatrique. Quand j'avais 7 ans, je suis entrée en première année primaire. Et c'est apparemment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir envie de travailler plus tard dans le domaine des soins, grâce à mon institutrice Margot. Personne dans mon entourage ne travaillait dans les soins, n'était infirmier ou ne faisait quelque chose dans ce domaine. Mais après ma première primaire, j'étais convaincue que je deviendrais infirmière un jour. Et plus tard, j'ai souhaité devenir sage-femme quand j'ai compris ce que signifiait ce mot. L'amour pour mon futur métier a donc commencé quand j'avais 7 ans et n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, je le fais toujours avec la même passion. En tant que responsable de la maternité, bien sûr, mon travail au chevet des patients a considérablement diminué au fil des ans. Aujourd'hui, je m'occupe surtout du coaching et de l'encadrement de mon équipe, de deux équipes maintenant. C'est à ça que je consacre la majeure partie de mon temps. Je suis également active au sein de l'Association professionnelle des sages-femmes, ainsi qu'au Conseil fédéral des sages-femmes. Donc, de ce côté-là, je suis bien occupée. Ook op dat vlak ben ik nog wel een bezig beetje. Ce à quoi nous sommes tous confrontés, je pense, c'est la pénurie de professionnels de la santé, surtout au sein des services infirmiers. Chez les sages-femmes, c'est moins un problème, mais surtout chez les infirmiers, il y a une vraie pénurie. La raison pour laquelle j'ai choisi de travailler dans les soins est qu'il y avait du temps pour s'occuper des patients, pour s'asseoir à côté des patients et prendre soin d'eux. Vraiment prendre soin d'eux. Je remarque que le temps disponible pour faire cela devient de plus en plus court. Et cela pose un problème à de nombreux professionnels de la santé. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En tant que responsable, je suis parfaitement au courant. Nous sommes tous conscients que nous voulons plus de qualité, mais cela ne doit pas se faire au détriment du temps que nous passons au chevet du patient. Nous avons de plus en plus besoin de temps pour organiser les dossiers, pour mettre les papiers en ordre. Nous pensions tous qu'avec l'ordinateur, nous aurions plus de temps pour nous occuper des patients. Mais il s'avère que c'est le contraire, car il faut mettre tant de paperasses en ordre et vérifier tant de choses. Je pense qu'en ce moment, c'est un peu plus important que la tension artérielle soit notée dans le dossier plutôt qu'elle soit effectivement mesurée. Cela me préoccupe un peu pour l'avenir, que le temps consacré à prendre soin du patient soit de plus en plus réduit. Des expériences qui me sont particulièrement restées en mémoire. En 35 ans, je pourrais raconter beaucoup d'expériences. Mais si je dois en choisir une, il y avait une femme enceinte de 32 semaines qui est arrivée en travail très prématurée. Elle allait clairement accoucher, complètement paniquée, complètement dépassée. En fait, pour 32 semaines, notre propre hôpital n'est même pas équipé pour cela. Nous n'accueillons pas de bébés de moins de 32 semaines. La norme est à partir de 34 semaines dans notre hôpital. Donc, cette patiente devait être transférée vers un autre hôpital avec lequel nous collaborions. Je l'ai donc accompagnée dans une ambulance. Je me souviens encore des conversations que nous avions dans l'ambulance. C'était leur premier enfant, donc les parents étaient complètement paniqués. La maman était dans l'ambulance, le papa derrière dans sa voiture. Vous vous dites, tout va bien, l'enfant sera sauvé, la mère sera sauvée. La patiente avait commencé à saigner abondamment. Mais vous savez, les professionnels de la santé connaissent la procédure. Au cas où nous devrions accoucher en route, on aurait pu le faire. Tout le matériel était présent dans l'ambulance. Et nous savions qu'elle serait bien entourée par la suite à l'hôpital universitaire. Et puis, j'ai eu comme une prise de conscience. L'endroit où vous naissez a un impact extrêmement important sur vos soins de santé. Parce que si cette patiente vivait une situation identique, mais à un autre endroit, nous n'aurions pas eu la possibilité d'un tel encadrement. Et ce bébé et sa mère n'auraient certainement pas survécu. Ce sont des choses auxquelles je pense tout le temps maintenant. À quel point votre lieu de naissance et le lieu où vous vivez déterminent la manière dont vous serez soigné, la manière dont vous pouvez obtenir de l'aide. Ce que je trouve vraiment très important, c'est que nous devons évoluer dans le domaine des soins. Nous devons passer d'un modèle centré sur le médecin à un modèle plaçant le patient, et de préférence aussi la famille, au centre. Je trouve extrêmement précieux que nous accordions beaucoup plus d'attention qu'avant aux patients, à la mère et à la famille. En tant que prestataire de soins, nous devons nous concentrer sur cela. Cela me réjouit énormément, car la continuité des soins s'inscrit parfaitement dans cette approche. Assurer la continuité des soins, accompagner vos patientes pendant 9 mois et en tant que sage-femme, même un peu après. Cela rend le cercle des soins vraiment complet et très beau, surtout si vous pouvez impliquer toute la famille. Cela vaut également pour les familles précarisées. Nous constatons que travailler de cette manière nous permet de découvrir très tôt des vulnérabilités au sein d'une situation familiale, en collaborant avec ces personnes tout au long du processus. Et vous pouvez vraiment faire quelque chose de concret pour remédier à ces précarités, parfois très tôt pendant la grossesse, parfois plus tard dans la grossesse. Mais il est crucial que ces vulnérabilités soient traitées avant que l'enfant ne naisse. Et ça, c'est vraiment très important. Cependant, je pense que nous devons faire attention à ne pas basculer de l'autre côté, où les gens présentent parfois des plans de naissance, des souhaits de naissance de 7 pages avec des dessins et tout ce qui va avec. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais il y a des professionnels de la santé compétents et qui sont là pour orienter d'une manière ou d'une autre ses plans et ses souhaits. Car toute demande ou tout souhait de naissance ne peut pas toujours être exaucé. Si quelqu'un dit demain « je veux accoucher à 4 pattes », ce n'est pas un problème. Mais « je veux accoucher à l'envers », ça devient un peu plus problématique. En fait, pour pouvoir répondre à certaines demandes, il faut que cela soit toujours techniquement possible du point de vue médical. Je pense que l'accès aux soins de santé de qualité est actuellement un peu entravé chez nous, car je crains que les soins de santé ne deviennent inabordables. Nous ressentons déjà que certaines choses ne sont plus envisageables pour de nombreuses personnes. Par exemple, autour d'une grossesse, en plus des soins médicaux de la sage-femme, une formation à la gestion consciente du bébé est également proposée. Mais ces cours coûtent environ 250 euros. C'est inabordable. Bien sûr, une certaine tranche de la population peut se le permettre. Mais pour une autre tranche, plus importante, ce n'est plus abordable. Cela me dérange un peu, car cela signifie que nous allons travailler à 2 vitesses. Je ne vois pas d'autre moyen de le financer différemment. Il n'est pas toujours évident non plus de savoir quels sont vraiment les soins de santé de base auxquels tout le monde devrait avoir droit. Et est-ce que cette gestion consciente du bébé fait partie des soins de santé de base? On pourrait dire qu'il est primordial pour les familles précarisées de travailler sur la manière de s'occuper de cet enfant. Donc, peut-être que ce sont vraiment des soins de base pour eux. Mais allons-nous nous-mêmes décider que ce sont des soins basiques? Et si ce sont des soins de base, alors nous voulons que ce soit remboursé. Pendant la pandémie, j'ai eu beaucoup de temps et j'ai écrit un livre, regroupant de nombreuses histoires que j'avais vécues grâce à Mémissa et au réseau Hôpital pour Hôpital, grâce à Médecins sans vacances. J'ai appelé mon livre « Mère en Afrique ». C'est en fait un livre dans lequel je raconte comment, en tant que sage-femme et infirmière occidentale, je me suis retrouvée à être impliquée dans les soins de santé en République démocratique du Congo, en particulier dans l'hôpital Kasongo-Lunda, qui est partenaire de mon hôpital à Denze. Et comment, en tant que sage-femme occidentale, je vis les soins de santé là-bas et comment, en travaillant avec les prestataires de soins locaux et en établissant la confiance, je parviens à quelque chose de très beau. Nous utilisons le livre principalement pour sensibiliser les gens. Je donne des conférences dans différentes organisations où ces expériences suscitent beaucoup d'intérêt. Je viens de raconter l'histoire de la femme enceinte dans l'ambulance. Ce sont des situations qui me font penser à des personnes qui n'ont presque pas accès aux soins de santé en RDC. 1. Parce qu'il n'y a pas de route. 2. Parce qu'il n'y a pas d'ambulance. 3. Parce qu'il n'y a pas de moyens et de matériel. 4. Parce que la connaissance et la compétence du personnel de santé ne sont parfois pas toujours suffisantes pour traiter certaines situations. C'est ce qui rend si beau le fait que nous ayons pu nous fertiliser mutuellement au sein du projet Hôpital pour Hôpital, pour utiliser le langage de la sage-femme. En fait, entre collègues de Denze et de Kasongo-Lunda, nous avons essayé de nous renforcer l'un l'autre. J'ai appris à travailler à nouveau avec mes mains, ma tête et mon cœur. C'est ça que j'ai découvert au Congo. Quant à eux, ils ont peaufiné leurs connaissances et compétences, ainsi que l'accès à certains moyens ou matériels. Nous avons travaillé ensemble pour offrir une formation à des sages-femmes, à l'hôpital, mais aussi en dehors de l'hôpital. Nous avons également formé quelques associations de mères. Ces personnes travaillent vraiment de manière ascendante maintenant, du bas vers le haut, en partant du patient. C'est aussi quelque chose que nous pourrions vraiment utilisé ici dans les soins de santé aux patients et les soins centrés sur la famille. Nous partons de la base, des parents. Quels sont les souhaits des parents? Et sur cette base, nous développons davantage les soins de santé. Je pense que c'est une très belle histoire. C'est aussi une symbiose très réussie entre les prestataires des soins au Congo et les prestataires ici. Raconter ces histoires ici peut également sensibiliser le grand public en Belgique. Nous sommes nés en Belgique, ce qui est une chance pour les soins de santé. Mais nous pouvons également contribuer à améliorer les soins de santé ailleurs. En sensibilisant et en expliquant aux gens autour de nous que l'accessibilité à ces soins est vraiment importante. Je pense que partout dans le monde, nous, les professionnels de santé, voulons offrir des soins de qualité. Et c'est en fait une priorité. Je trouve également que la notion de respect dans les soins est très importante. C'est une chose pour laquelle j'ai beaucoup lutté en tant que professionnel de la santé occidentale au sein du système de santé en République démocratique du Congo. Parce que la manière dont on traite les patients là-bas est un peu différente d'ici. Mais en parlant les uns avec les autres, on peut vraiment se rapprocher. Et nous apprenons au chevet des patients. Et je pense que c'est extrêmement important de partager cela ici. Nous n'avons pas la connaissance et l'expertise exclusive. Nous pouvons aussi beaucoup apprendre de nos collègues congolais. Ce renforcement mutuel est très important. Et c'est aussi l'histoire que nous devons raconter ici. Il n'est pas question que nous changions les soins de santé là-bas et que changent les soins de santé ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici que nous pouvons encore améliorer et changer. Les prestataires de soins au Congo sont désespérément sous-payés. Mais en Belgique aussi, il y a des problèmes concernant les sages-femmes qui ne reçoivent pas de numéro INAMI, par exemple. Ce qui pousse de nombreuses sages-femmes à se déconventionner pour avoir un peu de revenus supplémentaires dans les soins à domicile. Parce que c'est ce pourquoi nous travaillons. Nous voulons prendre soin des autres, mais nous devons aussi prendre soin de nous-mêmes. Et cela devient un problème en Belgique. Surtout chez les sages-femmes qui travaillent en tant qu'indépendantes. Et c'est là aussi un problème très important que nous devons résoudre rapidement parce que cela crée un système de soins de santé à deux vitesses. L'accessibilité des soins de santé pour les plus précaires, mais aussi pour tous, est ainsi compromise. Et c'est, je pense, le point vulnérable principal dans le système de santé en Belgique actuellement. Je pense qu'il est très important de partager des connaissances à l'échelle internationale. Partager ces connaissances et compétences, mais aussi les adapter aux situations locales. Je pense que c'est très important. Voir comment nous, en tant que professionnels de la santé en Belgique et au Sud global, nous pouvons nous aider mutuellement, en aidant avec des ressources et du matériel, mais surtout avec des connaissances. Et pas seulement des connaissances à un moment donné, mais aussi la possibilité d'accompagner sur le long terme. Je pense que rien n'est plus difficile que d'être complètement seul, quelque part, dans un petit dispensaire. Je pense qu'on ne peut pas comprendre. Ces personnes travaillent entièrement seules, sans personne autour d'elles. En Belgique, nous avons toujours une grande équipe autour de nous. Nous travaillons avec un groupe de personnes. Eux, ils sont là complètement seuls et doivent prendre une décision immédiate sur place, sans avoir personne à appeler ou à consulter. Je pense que c'est aussi un élément très important, donner un réseau aux professionnels de la santé. Du genre, regardez, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on peut obtenir immédiatement des informations via WhatsApp ou par email. On peut aider à mettre en place ce genre de système. Que cela devienne vraiment possible. Parce que je pense que rien n'est plus dur que de devoir prendre des décisions seul.
Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Santé pour tous. Ce témoignage vous a donné envie de participer au débat ? Alors parlez-en avec vos collègues, vos amis et votre famille. Vous pouvez également vous engager en faveur des soins de santé de qualité pour tous en devenant ambassadeur de Santé pour tous, tout comme cet orateur. Car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons garantir une santé en bonne santé.